plus détendue, qui soit un modèle de démocratie, de liberté, de justice. Un pays en quelque sorte rajeuni, qui oublie la morosité, qui ait confiance en lui-même et qui soit prêt à découvrir son propre bonheur.
Il est 18 Happy Hour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Bonsoir à tous, il est 18h11 et c'est l'heure de l'Happy Hour, et pas n'importe laquelle, parce que c'est la dernière de l'année 2015, puisqu'à partir de demain, la radio est en vacances jusqu'à début janvier. Et pour l'occasion, donc vous pourrez entendre pendant l'émission mes coups de cœur musicaux de cette année, les découvertes que j'ai faites en fouinant dans la discothèque de Radio Campus. Mais il n'y aura pas que de la musique, hein, je ne déroge pas la règle, j'aurai deux invités ce soir, Sabine Lavallée et Marcel Provost, qui nous parleront de l'association Espéranto Développement 45, qui nous parleront donc de cette langue bien particulière. Pour l'instant, on commence en musique avec un morceau du groupe Not Scientist qui s'appelle Window. Window du groupe Not Scientist qui sera en concert à Orléans le vendredi 4 mars prochain à l'Astrolab. Dans la Happy Hour ce soir, je reçois Sabine Lavallée et Marcel Provost de l'association Espéranto Développement 45. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre association Espéranto Développement 45 se trouve à Fleury-les-Aubrais. Pourquoi avoir créé cette association? Quel est son objectif?
Alors, cette association a été créée pour apporter un support à une autre association qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Espéranto Loiret. Les objectifs de Espéranto Développement 45 sont d'étudier, pratiquer et enseigner la langue internationale espéranto, contribuer à sa diffusion et à son utilisation, sensibiliser tous les publics, adultes et jeunes et enfants, à la diversité linguistique du monde, créer et entretenir des liens avec les espérantistes et les espérantophones du monde entier.
Alors, les espérantistes sont ceux qui parlent la langue ?
Oui.
Et les espérantophones ?
Alors, les espérantophones sont ceux qui parlent la langue et les espérantistes sont ceux qui parlent la langue et qui essayent de la promouvoir.
D'accord. Très bien. Depuis quand l'association est sur Fleury-les-Aubrais ?
Elle a été créée en février 2015. Donc, vous voyez qu'elle est
toute récente. Ah oui, c'est tout récent. D'accord. Et vous me disiez que c'était pour aider, dans le prolongement d'une autre association, il y avait un besoin ?
Il y a un besoin, parce que Espéranto Loiret, c'est les buts à peu près identiques, mais n'avait pas la volonté de développer avec le support de personnes embauchées. Et donc Espéranto Développement 45 est là pour être un vrai support avec un temps de travail et de promotion plus important.
Il y a combien d'adhérents ?
À Espéranto Loiret ?
Non, Espéranto Développement 45.
À Espéranto Développement 45, aujourd'hui, il y a 4 adhérents, puisqu'en fait, on est une association support. Et à Espéranto Loiret, on est une vingtaine d'adhérents.
D'accord. Comment ça se passe ? Vous donnez des cours, des stages ?
Oui, il y a des cours tous les jeudis soirs à Fleury-les-Aubrais. Il y a aussi des stages qui sont organisés, dont un ce dimanche, aussi à Fleury-les-Aubrais. Et on participe aussi dans l'école de Féologe aux activités périscolaires, puisqu'on propose de faire découvrir aux enfants les langues européennes en général, mais aussi l'espéranto.
Et pour participer aux cours et aux stages, il faut être adhérent à l'association ?
Il faut être adhérent à l'association Espéranto Loiret.
D'accord. Ok. C'est pour ça que oui, il y a plus de monde à Espéranto Loiret. Et par qui sont dispensés les cours, les stages ?
Alors, par les membres d'Espéranto Développement, et dont la personne la plus importante aujourd'hui, c'est la jeune femme en contrat civique qui a été recrutée au mois de septembre 2015, qui s'appelle Sabine Lavallée, qui est donc sur le plateau.
Qui est ici même. Donc, vous disiez, les prochains stages, il y en a un dimanche. Comment ça va se dérouler ?
Alors, celui de dimanche est un stage qui a déjà sa structure faite, mais il faut savoir que les stages sont conçus en fonction des gens qui s'y inscrivent. Donc pour l'instant, pour dimanche, on aura un stage qui va se décliner en 4 étapes. La première sera d'abord de la conversation en général, hein, pour se dire bonjour, se demander comment on va, etc. Ensuite, on va faire un petit cours de grammaire. Ensuite, on va regarder un film, un morceau de film qu'on va traduire. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'on en a compris. Et puis, on termine en faisant des jeux de société.
Comment se fait l'apprentissage de la langue ? Est-ce que c'est comme une langue comme le français ou l'anglais ou l'espagnol ? On apprend la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire ? Comment ça s'apprend, finalement ?
Alors, déjà, ça peut s'apprendre sur plusieurs supports, puisqu'il y a des livres... comme pour une langue classique, on va dire, et on peut aussi l'apprendre sur Internet. Sinon, au niveau de l'apprentissage, forcément, il y a du vocabulaire à apprendre, des choses comme ça. Mais comme les règles de grammaire sont toujours les mêmes, il n'y a pas d'exception, on apprend la règle, on l'applique, et c'est bon, en fait. On a créé un mot, ou on a créé une phrase, et les mots, après, sont construits par rapport à des racines, puisqu'il y a une racine à laquelle on ajoute des préfixes, des suffixes, ou les deux, et avec ces préfixes ou ces suffixes, on crée ainsi un nouveau mot.
Et par quoi est-ce qu'on commence la première chose qu'on apprend ?
La première chose que j'ai appris, oui. Je crois que c'était le verbe être.
Oui, comme dans
toutes les langues.
Dans toutes les langues, finalement, voilà. Et puis après, le vocabulaire principal.
Oui.
Et il y a des cours de niveau ? Enfin, différents niveaux, j'imagine ?
Dans les cours proposés par l'association ?
Oui.
Oui, il y a 2 niveaux. Donc le premier, c'est les débutantes, puisqu'il n'y a que 2 débutantes pour l'instant. Et après, il y a un cours pour les personnes qui sont plus à l'aise avec la langue.
Et les cours, donc, c'est sous forme... ça fait cours scolaire ou c'est un peu plus ludique
Non, c'est pas tout à fait comme à l'école. On essaie aussi quand même souvent de faire des jeux.
Est-ce que tout le monde peut apprendre l'espéranto à n'importe quel âge, comme n'importe quelle langue finalement?
Oui, vraiment, il n'y a pas besoin de, par exemple, d'être très bon en anglais ou d'être très bon dans une autre langue pour pouvoir l'apprendre.
Et là, les personnes qui sont inscrites au cours, c'est des personnes de quel âge à peu près, pour avoir une petite idée?
Eh bien, on en a qui doivent avoir 30, un petit peu moins de 30 ans, d'autres qui ont 35-40, ça représente un petit peu moins de la moitié. Puis les autres, il y en a entre 50 et 60 ans, et puis il y en a 3 personnes retraitées.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée, peut-être vous en parlez, de pourquoi elles ont eu envie d'apprendre l'espéranto?
Alors, les motivations des gens sont très variées. Nous, on a eu des gens relativement âgés qui voulaient en faire un moyen de travail intellectuel pour travailler leur mémoire.
Mm-hmm.
Il y a des gens qui veulent l'apprendre parce qu'ils en ont entendu parler il y a longtemps et ils veulent savoir à quoi ça correspond.
C'est vrai que souvent, on connaît le mot, mais on ne sait pas trop vraiment, pas vraiment d'idée de à quoi ça peut ressembler et comment on peut s'en servir, etc.
Et il y en a d'autres qui veulent l'apprendre. Alors, dans une petite vidéo qu'on va vous communiquer, que vous pourrez peut-être mettre sur le site internet, il y a quelqu'un qui a appris l'espéranto parce qu'il souhaitait apprendre une langue parlée par peu de gens, et donc où il pourrait, en public, parler en espéranto avec ses amis. Et en fait, il s'est rendu compte que, eh bien, finalement, c'était parlé par plus de gens que ce qu'il croyait, et maintenant, il l'utilise pour parler avec des gens qu'il ne connaît pas, et non pas qu'avec des gens qu'il connaît. Voilà, les motivations peuvent être extrêmement variées.
Sabine, donc tu es en service civique au sein de l'association Espéranto Développement 45. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta mission au sein de l'association?
Alors déjà, depuis septembre, du coup, j'ai commencé ma mission, j'apprends la langue, je me perfectionne.
C'est déjà
quelque chose. Après, je participe aussi aux activités périscolaires qui ont lieu le vendredi après-midi. On prévoit aussi de réaliser une exposition ayant pour thème les langues pendant la Première Guerre mondiale. Et je participe aussi donc à l'enseignement pour les débutants. Et on essaie aussi de mettre en place de nouvelles activités, de développer un petit peu l'association.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans cette association?
Déjà, j'aime bien apprendre des langues en général, je suis assez curieuse. Et là, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée, un petit peu, une langue pour que tout le monde puisse communiquer, qu'il n'y ait pas de barrière entre les gens. Alors j'ai trouvé ça joli comme idée, et il y avait ce service qui était proposé, alors je me suis dit pourquoi pas.
C'est un beau concept. Et tu avais déjà, connaissais déjà quelques bases avant, ou tu as vraiment appris au début de ton service civique?
Alors je connaissais aucun mot en espéranto. Je savais juste ce que c'était, j'en avais déjà entendu parler avant, mais je ne savais pas grand-chose.
Très bien, alors on va continuer de parler de l'association Espéranto Développement 45, qui est la langue l'espéranto, dans un instant. Après une pause musicale, alors on va écouter justement une musique en espéranto. Ça s'appelle Docteur Zamenhof, illustrateur du traité biographique, donc j'imagine que c'est... Il y a peut-être un film qui est sur la vie de Docteur Zamenhof. C'est peut-être la musique du film, j'imagine.
Alors, c'est une petite BD en vidéo, voilà, sur la vie du Docteur Zamenhof, qui est le créateur de la langue espéranto. Mmh. Et la chanson, c'est une chanson qui a été écrite par un Polonais qui veut remercier Ludovic Zamenhof pour l'idée géniale qu'il a eue.
Ah, on l'écoute, on en parle après.
Chi vin, signoro Ludovico, mi volas danki vin per ĉi tiu kaŭzo. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto, pro verda koro de mia vino, stracita korde. Koloman, pro la kongresan, Varsovio, pro renkontiĝo kun Japano. Pro la kongresan, Varsovio, pro renkontiĝo kun Japano. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kaj mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Belgrado, Leningrado, el Italio kaj Hungario, pro Belgrado, el San Petersburg. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kaj. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto, pro juna negro komencanta, kortuŝa franca melodio. Ĉar ĉio dankon Esperanto, ĉar ĉio majstro dankon al vi. Ĉar ĉio dankon Esperanto, ĉar ĉio majstro dankon al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu. Danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Voilà, c'était un morceau, donc, vous me disiez, écrit pour le docteur Zamenhof, qui est le créateur de la langue. C'est bien ça?
Tout à fait.
Je suis toujours donc en compagnie de Sabine Lavallée et Marcel Provost de l'association Espéranto Développement 45. L'espéranto, donc, c'est une langue internationale parlée dans plus de 120 pays dans le monde. Si l'on revient à sa création, donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la création de l'espéranto? Donc, comme on le disait, ça a été créé par le docteur Zamenhof. En quelle année?
Alors, il a publié son premier manuel de langue internationale en 1887.
Et donc, comment s'est passée la création? Est-ce que vous avez un peu d'informations sur le pourquoi? Quelle idée qu'il a eue de créer cette langue?
Alors, Ludovic Zamenhof, c'était un juif qui habitait à Bialystok avec sa famille paternelle, son père, sa mère. Son père était médecin et dans cette époque, les juifs n'avaient pas le droit d'avoir n'importe quel métier. Ils vivaient dans une ville où il y avait une population polonaise, russe, allemande et juive. Chacun parlait sa langue, donc lui parlait le yiddish, les autres parlaient leur langue. Et il y avait énormément de violence entre les communautés parce que les gens ne se comprenaient pas. Et donc, enfant, déjà, Zamenhof pensait qu'il serait utile d'avoir une langue pour permettre aux gens d'échanger, ce qui éviterait beaucoup de bagarres. Et donc, en vieillissant, il a décidé d'en créer une parce qu'il s'est rendu compte que malgré l'apprentissage de plusieurs langues qu'il avait fait, il était incapable de pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc, il a décidé de créer une langue simple, facile, accessible à tous.
Alors, au niveau de la construction de la langue, comment ça, à quoi ça ressemble? Est-ce que, parce que là, à l'écouter, on a des sonorités un peu latines, un peu germaniques. Enfin, on a un mélange, on ne sait pas trop à quoi le rapprocher, en fait.
C'est vrai que c'est vraiment un mélange. Il y a quand même beaucoup de racines latines, ce qui peut aider quand on est francophone, puisqu'on reconnaît certaines racines, donc on peut essayer de deviner la signification du mot. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi des racines plus anglophones, plus germaniques, ce qui fait que ça donne effectivement un mélange quand on l'entend. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à l'italien quand
oui,
on l'entend.
Alors, je trouve qu'à la première écoute, ça fait un peu voilà, italien, espagnol. On a l'impression de comprendre finalement dans la chanson. Bon, ça fait assez, des mots assez simples, mais... Et puis après, on va écouter là tout à l'heure l'extrait que tu m'as envoyé de quelqu'un qui parle vraiment, parce que là, bon, c'est une chanson, c'est un peu différent, et on se rend compte voilà, des différentes sonorités. Donc justement, on va écouter pour se faire une idée donc du parler espéranto. Un extrait, donc c'est un espérantiste brésilien, Arilio Eva de Carvalho, qui parle donc en espéranto à l'occasion d'un congrès espérantiste en 2013 au Brésil. Je trouve qu'on se rend bien compte là des différentes sonorités, plus quand la personne parle que quand la personne chante, parce qu'au final, dans le chanter, ça fait toujours. Là, en plus, le monsieur a un accent, je ne sais pas si c'est l'accent brésilien ou quoi, mais. C'est...
Ouais, il a un petit accent. Enfin, quand je l'entends, j'entends qu'il n'a pas le même accent que les Français avec qui je parle. Ou même à un moment, il y a aussi quelqu'un d'une autre origine qui parle. Je ne sais pas laquelle, et je trouve qu'on entend aussi qu'il y a quand même des petites différences.
Mmh. Oui, ben ça fait comme. Est-ce que ça fait ce que tu disais quand les Français parlent en espéranto? Est-ce que ça fait comme quand un Français parle anglais ou un Espagnol parle anglais? Ça, on différencie bien les sonorités avec l'accent finalement et la façon de prononcer.
Oui, il y a toujours quand même un petit accent qui peut donner des signes sur la provenance de l'individu à qui on parle.
Et la prononciation est difficile du coup à apprendre ou au niveau de la phonétique, ça va?
En fait, c'est assez différent quand même du français, je trouve, parce que il peut y avoir des accents, un peu comme si c'était des accents circonflexes, sauf que c'est sur des lettres comme un G, un S.
D'accord.
Donc on n'est pas trop habitué à voir ça, mais en fait, une fois qu'on a la prononciation, ça va. Surtout que on doit prononcer tous les, il n'y a pas de lettres muettes, donc ça aide aussi.
La personne, on sent qu'il l'accentue sur certaines syllabes, certaines lettres.
Oui, il faut accentuer sur l'avant-dernière syllabe.
D'accord.
Comme en espagnol et en italien, c'est la raison pour laquelle, entre les finales qui ressemblent, I, O, E, et l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe pour la majorité des mots, ça donne ce rythme de la phrase ou des mots comme en italien et en espagnol.
Alors, je me demandais dans quel pays est-ce que l'espéranto est le plus parlé, ou pas forcément un pays, mais des régions.
Alors, actuellement, il est beaucoup parlé au Japon et dans les pays d'Europe, et il est en cours de grand développement en Asie en général et en Afrique.
Avec l'accent justement asiatique, enfin japonais ou chinois, ça doit donner une autre dimension aussi, je pense.
Tout à fait.
Au niveau de la prononciation. On en parlait un peu tout à l'heure, mais quelles sont à la fois les facilités et les difficultés d'apprentissage de la langue ?
Au niveau des facilités, du moins des choses qui peuvent nous aider, c'est comme je le disais, le fait qu'il y ait des racines latines, donc qui ressemblent un petit peu au français. Ça peut quand même être une bonne aide. Ensuite, c'est une langue qui est logique et régulière, donc il n'y a pas d'exception, c'est toujours... Il y a une règle, on la suit, et ça facilite quand même pas mal les choses. Et ensuite, il y a aussi le fait, donc, comme je le disais, que chaque mot se prononce, donc ça rend aussi les choses plus simples. Après, au niveau des difficultés, il y a peut-être quelques faux amis, où on se dit, tiens, cette racine me dit quelque chose, je la connais, et en fait, le mot ne veut pas du tout dire ce qu'on pense. Après sinon c'est vrai qu'au niveau des difficultés moi j'ai surtout remarqué celle-là mais je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés, enfin ça reste quand même le même alphabet, ça reste un minimum proche on va dire du français, surtout grâce aux racines latines.
Au niveau du vocabulaire, est-ce qu'il peut y avoir des mots transparents un peu comme je pense à l'espagnol où il y a certains mots par exemple avec le français où on rajoute un O, un A,
là oui. Est-ce qu'il y a des mots oui il y en a. Il y en a
un facile.
Par exemple,
paroli.
Pour parole.
Pour parler.
Parler.
Et okay. On va dire parolo pour la parole. On dit parola pour l'oral. Parole pour oralement.
Les féminins, masculins, pluriels sont un peu comme dans les autres langues ou c'est différent ?
Il n'y a pas de féminin masculin.
D'accord.
Pour le pluriel, on ajoute un J à la fin du mot.
Ah oui, c'est quand même différent.
Et voilà, le pluriel est fait.
Et ça se prononce avec le J à la fin.
Oui, ça fait IE.
D'accord.
Alors, par exemple, parolo, si on dit des paroles, on va dire paroloi.
D'accord. Ça fait un... le oi à la fin, ça.
Tout à fait.
Enfin, un peu oriental, je sais pas. Donc, comme on disait, donc, le but de votre association, c'est de développer l'espéranto, de faire connaître. Comment est-ce qu'on pourrait faire, j'imagine si vous aviez plus de moyens, de faire connaître plus qu'il n'est déjà connu, peut-être organiser d'autres événements. Est-ce que vous avez aussi déjà côtoyé d'autres associations qui font la même chose que vous
ou... Alors, oui, parce qu'en France, il y a à peu près une association de promotion de l'espéranto dans chaque département, plus ou moins...
Ah oui, quand même.
Voilà, plus ou moins vivante, plus ou moins active. Mais c'est comme ça en France. Et la majorité d'entre elles sont membres de ce qu'on appelle l'association Espéranto France, qui est une association donc française.
On est nationale et après il y a les petites antennes.
Voilà. Et cette association Espéranto France fait partie d'une association internationale qui s'appelle UEA, donc Universala Esperantisto Esperanto, sur une structure basée sur la nationalité. Donc ces deux associations sont les deux grandes associations internationales d'espéranto. Et puis donc localement, il y a des gens qui donnent des cours, bien sûr. Il y a des gens qui organisent des congrès. Il y a des gens qui organisent des manifestations au cours d'une journée, par exemple celle de mardi. Mardi, ça s'appelle la journée Zamenhof. Donc c'est une journée en souvenir de cet homme. Et en général, nous on ne l'a pas fait cette année, mais il y a des structures qui organisent des manifestations, des films débats ou des choses comme ça. Et surtout, tous les ans, il y a un congrès international qui est organisé. Cette année, en 2015, il a eu lieu à Lille. On était 2700 ou 3000 espérantistes de 60 pays différents. Et donc nous avons assisté à des conférences, à des tables rondes, à des... sessions de travail, à des spectacles, tout ça se faisait en espéranto.
Il y avait je ne sais pas si c'est ça dont vous parliez, la journée mondiale le 15 décembre.
Voilà, oui. C'est le jour de sa naissance.
Ça. C'est ça.
D'accord.
Oui.
Et donc on rappelle votre prochain stage, donc c'est mardi prochain, c'est ça ?
C'est dimanche.
Dimanche, pardon.
Le 20 décembre.
Dimanche 20 décembre.
De 10h à 16h à la salle des marronniers à Orléans. Et puis, si je peux, je voudrais annoncer une autre manifestation qui aura lieu le mardi 19 janvier à la médiathèque d'Orléans. C'est une conférence débat sur le thème de langue dominante, langue internationale, langue universelle. En présence de Mireille Grosjean, qui est une dame suisse, qui est une spécialiste des échanges interculturelle, et donc à 20h30 à la médiathèque dans le cadre du Forum des droits humains.
Eh bien, merci, c'est noté. Merci à vous deux d'être venus donc, pour présenter l'association Espéranto Développement 45 et puis cette belle langue universelle qui, on l'espère, sera plus bientôt développée plus largement. Merci à vous.
Merci.
Merci.
On poursuit l'émission en musique avec un morceau de New Order qui s'appelle Singularity. Singularité du groupe New Order. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission, la dernière de l'année 2015. Alors, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve début janvier pour beaucoup d'autres happy hours. Et puis, bah, là, tout au long de la soirée, on va prendre l'antenne pour parler de ce qu'on a aimé musicalement dans cette année 2015 avec tous les membres de Radio Campus. Bonne soirée, au revoir.